France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est la légende Victor Hugo que nous explorons avec philosophie. Et aujourd'hui, 22 mai 2025, nous voici 140 ans jour pour jour après la mort de Victor Hugo. 140 ans que nous célébrons son œuvre esthétique, morale et politique. Sans même l'avoir lu, de lui nous restent ainsi Les Misérables, L'Exil, le lyrisme des grands principes, liberté, égalité, fraternité. De lui nous reste donc l'idée que sans lui, la France et sa République n'auraient pas été les mêmes. Mais est-ce le cas? 140 ans après ses funérailles nationales, notre République est-elle encore celle de Victor Hugo? La République, c'est lui?
Je vais vous dire exactement ce qui est dans ma mémoire. Mon père m'a dit un soir... Je vais te conduire jusqu'à l'Arc de Triomphe pour que tu vois le catafalque de Victor Hugo. Il y avait énormément, je me rappelle que le sentiment de la foule, j'étais très petite, j'ai gardé le souvenir de la presse par conséquent, d'avoir été pressée.
Mon père m'avait montré le catafalque en me disant « c'est un grand homme qui vient de mourir, c'est Victor Hugo ». On m'avait promis, si j'étais sage, le lendemain de voir son enterrement.
Vous savez, il a demandé à voir le corbillard des pauvres.
Alors comment était-il ce corbillard des pauvres ?
Tout ce qu'il y avait de simple et rien du tout de comme décoration.
J'ai compté 32 chars de fleurs.
Et j'ai souvenir de celle qui a été offerte par les magasins du printemps, faite entièrement en violette de Parme et surmontée de petits oiseaux.
Et tous les magasins avaient envoyé comme
oh,
ça.
Oh, tous les magasins, tout le monde. Vous savez, c'était une réclame de commerce.
Les chars de couronne, n'est-ce pas, qui étaient 14, je crois qu'il y en avait 14, il me semble bien, de tous les coins du monde. J'ai vu arriver tous les corps constitués, n'est-ce pas, les facultés, les cours,
en
tout
en
grande
tenue.
C'est ça qui m'a frappé beaucoup.
Le cortège, ça, c'était quelque chose de fabuleux. Ah, le silence. Mais vous savez, ça m'avait frappé. Tout d'un coup, un monsieur, dans ce silence, il m'a dit, allez, qui veut monter là-dessus? 300 francs la place.
Bonjour Alexandre de Vitry.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en littérature française du 20e et 21e siècle à Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur de Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité qui est paru aux éditions Gallimard en 2023. Vous y comparez Baudelaire et Victor Hugo sur le concept de fraternité. On va bien sûr y revenir durant cette émission. Et bonjour à vous Philippe Reynaud. Vous êtes philosophe, professeur émérite de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, co-directeur de la revue Commentaire. On vous doit Victor Hugo, la révolution romantique de la liberté, également disponible aux éditions Gallimard, mais paru un an après le livre d'Alexandre de Vitry, c'est-à-dire en 2024. Première question à tous les deux. Est-ce que vous considérez Victor Hugo comme l'un des pères fondateurs de la République française? Alors, Philippe Reynaud. Vous avez été désigné par Alexandre de Vitry.
Moi, je dirais que c'est... Il faut partir de ce que voulait être Victor Hugo. Victor Hugo a été l'incarnation la plus forte de l'idée que l'écrivain, et singulièrement le poète, devait incarner la place du pouvoir spirituel qui avait été autrefois occupée par l'Église. Et la fonction la plus importante ou la plus noble, c'est celle de prophète. Et je pense qu'on peut dire que Hugo a joué ce rôle, qui fait qu'il n'a jamais cherché à exercer vraiment le pouvoir. Il n'a pas tellement cherché à être conseiller du prince.
Et il a occupé des fonctions politiques.
Il a été député. Bon, c'est bien d'être député. Bon, il a joué.
Bah, c'est quand même pas mal.
Non, il a joué un rôle parlementaire qui est tout à fait important et respectable. Mais si vous faites la liste des grands hommes politiques de la France, je pense pas que vous y mettrez Victor Hugo. Alors, c'est quelqu'un, je dirais, dont le parcours personnel correspond parfaitement à ce qu'a été la Troisième République. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, avant 48, était tout à fait en accord avec la monarchie de Juillet. C'était l'avancée de la monarchie de Juillet qui s'est ralliée sans problème à la République. qui a refusé avec énergie le Second Empire, et qui ensuite est revenu, une fois le Second Empire tombé, a toujours refusé le compromis, est revenu au moment de la refondation de la République, a choisi une position intelligente et courageuse qui consistait à ne pas soutenir la Commune de Paris, mais à reconnaître qu'elle avait des intentions qui n'étaient pas mauvaises, à défendre l'amnistie. Il incarne, si vous voulez, très bien à la fois la continuité entre ce qu'il y avait, disons, de progressiste, il faut bien le dire, malgré tout, dans l'orléanisme, et le ralliement à une république qui ne va pas jusqu'à faire la révolution sociale. D'autre part, ce qui est une chose qui est un peu oubliée de nos jours, c'est qu'il incarne très bien, à la fin du 19e siècle, l'attitude singulière des Français à l'égard des questions internationales, c'est-à-dire que c'est à la fois un théoricien de la paix universelle, de la République européenne, etc., et quelqu'un qui envisage assez tranquillement la possibilité d'une nouvelle guerre avec l'Allemagne.
Donc il ne manque pas de contradictions d'une certaine manière.
Oui, mais c'est les contradictions de la République, si vous voulez. On parlait de Péguy là, avant l'émission. Ben, c'est quelqu'un qui aurait pu dire effectivement qu'il va faire la guerre de 14 parce que ça va être la dernière guerre. Il y a quelque chose comme ça. Donc il est tout à fait en accord avec la sensibilité de la Troisième République. Ça, c'est
donc père fondateur de la République, mais dans un sens on pourrait dire spirituel et il faudrait revenir sur cette définition de république, ça avec
une certaine exemplarité de son parcours personnel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de gens dans l'héritage des libéraux qui ont été aussi intransigeants à l'égard du Second Empire, et ça compte beaucoup, si vous voulez. Ça compte beaucoup dans la reconstruction.
Mais bon, l'exil, c'est à partir de 1851-52, c'est pas toute sa vie non plus.
Non, il peut pas s'exiler avant
qu'il y ait une raison de s'exiler. Alexandre de Vitry, alors sur cette question, Victor Hugo, père fondateur ou pas de la République spirituelle, et puis la question à laquelle je viendrai ensuite, quel type de république? Est-ce que nous, on ne fantasme pas aussi la république qu'il a construite?
J'irai dans le même sens que Philippe Reynaud, ce sens un peu prophétique et spirituel. J'ajouterais cependant que, à mon avis, tout ça est inséparable du problème de l'idée républicaine au XIXe siècle. Pour Victor Hugo, donc, qui est un républicain tard venu, enfin progressivement constitué, hein, puisqu'il a eu beaucoup de phases différentes dans son évolution politique, même s'il y a des voies de communication entre ces différents moments, ces différentes identités de Victor Hugo. Eh bien, le républicain chez Hugo se déploie complètement dans le moment de l'exil, donc à la suite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Or, il faut avoir en tête que justement cette phase-là, c'est-à-dire à partir du milieu du 19e siècle, c'est un moment de crise profonde de l'idée républicaine. On a cru à la République en 1848, au moment de la Seconde République, au moment de la Révolution de février, et là, Victor Hugo est plutôt à distance du militantisme républicain, et il y a une première crise qui est le mois de juin 1848, où à cause des émeutes, on tire donc sur le peuple, et c'est une crise interne au régime républicain très forte, qui fait que beaucoup deviennent très sceptiques vis-à-vis des idées républicaines dès juin 1848, et puis ensuite, il y a, en 1851, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et en 1852, le plébiscite, qui fait qu'en fait, le peuple ratifie massivement la prise de pouvoir du nouvel empereur. Et c'est là que Victor Hugo, en fait, découvre sa véritable vocation politique, en quelque sorte, qui est celle de prendre en charge, en prophète, seul, sur son rocher, pour reprendre l'imagerie, mais qui lui correspond tout de même directement, il prend en charge le destin de la République, dans les châtiments, par exemple, donc qu'il écrit juste après le coup d'État, la voix des châtiments, la voix qui parle dans les châtiments, c'est la voix du peuple, parce que le peuple, c'est devenu Victor Hugo. Et donc, il y a quelque chose dans cette voix poétique ou romanesque avec Les Misérables quelques années plus tard, qui consiste à prendre en charge le destin de la République parce que la République n'est plus là. Et donc quand on fonde la Troisième République, qu'on fonde très difficilement, qui est un régime très fragile pendant longtemps, Victor Hugo a aussi un statut particulier pour cette raison, parce qu'en quelque sorte, il porte en lui un sacré républicain ou un spirituel républicain qui est disponible pour ces nouvelles générations républicaines qui se cherchent en quelque sorte. Et là, je crois qu'on peut dire que c'est un père fondateur à un autre niveau que les pères fondateurs qu'on appelle comme ça communément de la Troisième République, parce que c'est une sorte de père refondateur, si vous voulez, de la République. Il permet de redémarrer la République qui a tant de mal à redémarrer, et jusqu'aujourd'hui, ça marche pour la Cinquième République aussi bien.
Oui, mais ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire, déjà, on va revenir quand même sur la question de la définition de la République. Vous parlez de refondation, Alexandre de Vitry. Qu'est-ce qu'on entendait par République ? Est-ce qu'on entendait autre chose que un dépassement de l'ancien régime, le nouveau régime ? Quelle était la définition et est-ce qu'elle coïncidait avec celle que Victor Hugo voulait lui donner quand il l'a refondée et qu'il s'est dit très intentionnellement « ça va être moi, le prophète de la République ». Philippe Reynaud.
Ce qu'on entend par République, le problème dont il faut partir quand même, c'est que...
Parce qu'on n'est peut-être pas très sûr en fait de cette définition.
Pour la génération de Victor Hugo, qui est né comme chacun sait en 1802, la République, c'est un régime qui a disparu au moment où Hugo est né, qui a duré 10 ans, une dizaine d'années. Et qui a été dominé quand même par la période de la Convention et de la Terreur. Et la République, c'est à la fois la forme la plus radicale du nouveau régime, issu de la fin de l'ancien, et un régime dont l'expérience n'est pas uniformément admise comme heureuse. Et quand Victor Hugo fait son tournant vers la gauche, c'est-à-dire aux alentours de 1830, ça coïncide à peu près avec la révolution de 1830, il ne devient pas républicain, il devient libéral. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à ce moment-là, le romantisme, c'est le libéralisme en littérature, il y a pour lui une coïncidence entre l'avant-garde politique et l'avant-garde littéraire, et il reste dans cette position pendant toute la période qui va aller jusqu'à la révolution de 48, si vous voulez, dans lequel, mais à ce moment-là, ce qu'on voit apparaître, c'est l'idée que la République a un avenir comme idée, à condition qu'elle arrive à se dissocier de l'héritage de la Terreur. Je crois que c'est très clair dans les textes de Hugo dans cette période-là. Il est disons assez anti-montagnard, assez anti-jacobin, assez anti-robespierriste, mais il envisage que derrière la forme monarchique de la monarchie de Juillet, la République commence à croître à l'intérieur et devient une possibilité. Alors, ce que je pense, c'est qu'il a toujours eu, si vous voulez, sa position de fond a toujours été celle-là, simplement à un moment, il faut que l'œuf éclose, que le poussin sorte et que la République naisse. Ça se fait en 48, mais en 48, vous avez évoqué les journées de juin. C'est évidemment décisif parce que là, on a un nouveau conflit inattendu qui est le conflit entre, on disait à un moment, entre la Marianne et la sociale. Le conflit entre la Marianne et la sociale, il faut voir qu'à l'époque où il se produit, Hugo est nettement du côté de la Marianne. Il trouve que la répression est excessive, mais il n'est pas contre la répression. Et il n'a jamais légitimé les journées de juin 48. Il a toujours dit que c'était un épisode douloureux, tragique, c'est une tragédie, mais la République était quand même dans son droit en se défendant. Alors ça donne, je crois, le parcours de Hugo, c'est que je crois qu'il faut pas trop... comment dirais-je, la République est une idée magnifique dans la construction de Hugo, mais... et par ailleurs, il est d'une intransigeance générale dans la dénonciation générale de tous les régimes passés de la France, qui est un peu singulière d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que c'est immédiatement, si vous voulez, la solution de tous nos problèmes.
Il n'y adhère pas complètement d'un coup.
En tout cas, ça s'est fait progressivement et il n'a jamais renié le caractère progressif de son ralliement. Il y a un très beau texte dans les Misérables qui est consacré à l'héritage de Louis-Philippe et qui est d'une grande indulgence pour le roi Louis-Philippe. Bon, alors là, certains diront c'est parce qu'il était compromis, etc. Je pense que c'est plus profond que ça.
Alexandre Vitry.
Oui, je vais dans le même sens que Philippe Reynaud. Je rappellerai simplement peut-être une chose, deux choses. La première, c'est que le mot république vu d'aujourd'hui est un mot un peu désémantisé, si je veux être un peu barbare, mais disons qui n'a pas la force le dynamisme qu'il avait. Oui, polémique et même dynamique dans un sens où républicain aujourd'hui, c'est certaines opinions à l'intérieur d'un certain régime, mais il n'y a pas cette ouverture vers l'avenir que le mot république portait beaucoup pendant très longtemps.
Au contraire, aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'on est républicain, on entend des valeurs françaises qui sont déjà ancrées, déjà digérées d'une certaine manière.
Oui, et quand vous dites qu'un tel n'est pas assez républicain, il y a quelque chose de très normatif qui est très différent de ce que le mot charrie au 19e siècle. Donc la première chose, c'est qu'en fait, dans le mot républicain, il y a un flou qui fait partie de ce qu'est la valeur même du mot république au 19e siècle. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans les mutations successives de Victor Hugo, il y a des points d'ancrage très forts, en fait, des facteurs d'unité, mais la République n'en fait pas vraiment partie. La liberté, notamment, est une des grandes valeurs du jeune Hugo comme du vieil Hugo.
D'où le libéralisme,
hein, mais même ensuite, par la suite, c'est toujours quelque chose qui est très central dans les Misérables. La question de la liberté reste tout à fait centrale. Bon. Et puis la fraternité, donc, qui se déploie un peu plus progressivement, à l'image d'ailleurs du siècle en fait, parce que c'est progressivement dans les années 30 et 40 que ce vocabulaire de la fraternité prend une place centrale. Et bien là aussi, ça va être quelque chose de structurant. Hein, donc c'est plutôt ces idées-là en fait qui glissent un peu dans les différents moments de la vie politique de Victor Hugo, sachant que par ailleurs, ce qu'on peut aussi dire de ce Hugo en mouvement, c'est que à chaque période, il y a toujours une sorte de léger décalage ou de singularité de Victor Hugo vis-à-vis de son propre camp. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit bien dans le livre de Philippe Reynaud, vous insistez là-dessus, mais sur le fait que quand il est libéral, il y a quelque chose chez lui qui le distingue un petit peu des libéraux, de même que en fait, lorsqu'il est légitimiste, même en 1825, donc au moment du sacre de Charles X, dont on fête d'ailleurs l'anniversaire en ce moment, enfin fête, dont c'est l'anniversaire.
Ah ben on aurait dû faire une émission sur lui en fait.
Donc lors du sacre de Charles X, il est à la tête du cortège des poètes qui célèbrent ce sacre en tant que jeune romantique royaliste et légitimiste, mais en fait, il y a déjà quelque chose qui se manifeste dans les poèmes de cette époque, qui va dans le sens de la liberté et du libéralisme. Pas au sens de Chateaubriand. Chateaubriand défendait l'idée que le parti légitimiste était le seul à défendre la liberté. Ce qui peut sembler très paradoxal vu d'aujourd'hui, mais c'est la position de Chateaubriand. Celle d'Hugo est plus glissante, plus labile, si l'on veut. Il y a quelque chose toujours en mutation chez Hugo qui fait que le légitimiste prépare l'orléaniste, qui prépare le républicain, parce que à son tour, le Victor Hugo orléaniste des années de la fin des années 20 et des années 30 prépare à beaucoup d'égards le républicain qui se signalera explicitement pour la Seconde République.
Ça veut dire qu'il a une grande vision de l'histoire, qu'il arrive à se projeter ou que c'est un opportuniste ?
Non, alors il y a une dimension peut-être opportuniste que chez lui, notamment dans les années 40 où il devient vraiment un notable des lettres, où il devient pair de France et où il entre à l'Académie, qui d'ailleurs a fait qu'il s'est à ce moment-là un peu séparé du jeune public à qui il aurait voulu parler, à qui il parlera à nouveau dans les années 50 en quelque sorte.
Mais avec son exil.
À partir de son exil, tout à fait. Mais par ailleurs, ça a à voir avec cette posture prophétique dont nous parlions tout à l'heure. Alors, dans le cas de l'exil, la posture prophétique se déploie beaucoup plus naturellement et simplement. Mais autrement, il y a, en fait, pour utiliser un mot qui est peut-être un peu fort pour parler de Victor Hugo, mais une position d'avant-garde, on pourrait dire. Toujours un petit peu en détachement du groupe, à la recherche de quelque chose qui se manifeste singulièrement dans sa personne propre. C'est un écrivain, donc quelqu'un qui est dans une posture qui affirmant très fortement une singularité, une individualité. Et donc, quand on est en politique, ça produit toujours quelque chose d'un peu paradoxal dans le rapport au groupe auquel on appartient.
J'aimerais qu'on écoute ce texte justement de 1830 dans lequel Hugo fait cette distinction entre une chose république et le mot monarchie.
Après juillet 1830, il nous faut la chose république et le mot monarchie. À ne considérer les choses que sous le point de vue de l'expédient politique, la révolution de juillet nous a fait passer brusquement du constitutionnalisme au républicanisme. La machine anglaise est désormais hors de service en France. Les Whigs siégeraient à l'extrême droite de notre chambre. L'opposition a changé de terrain comme le reste. Avant le 30 juillet, elle était en Angleterre. Aujourd'hui, elle est en Amérique. les sociétés ne sont bien gouvernées en fait et en droit que lorsque ces deux forces, l'intelligence et le pouvoir, se superposent. Si l'intelligence n'éclaire encore qu'une tête au sommet du corps social, que cette tête règne. Les théocraties ont leur logique et leur beauté. Dès que plusieurs ont la lumière, que plusieurs gouvernent. Les aristocraties sont alors légitimes. Mais lorsqu'enfin l'ombre a disparu de partout, quand toutes les têtes sont dans la lumière, que tous régissent tout, le peuple est mûr à la République. Qu'il est la République.
Extrait du Journal des idées et des opinions d'un révolutionnaire de 1830 de Victor Hugo. Tous les deux, vous nous avez évoqué ce texte en préparant l'émission. Philippe Reynaud, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce texte? Est-ce qu'on y retrouve cette sorte de labilité de Hugo qui parle à la fois de choses république mais de mots monarchie, comme s'il ne fallait pas tout de suite être dans le mot monarchie?
Je crois que l'idée importante dans ce texte, c'est celle qui apparaît tout à la fin.
C'est l'idée donc pas au début alors.
Non mais c'est bien sûr que le sens de la formule la chose république et le mot monarchie, il est donné à la fin. Le sens c'est la maturité, c'est la maturation, c'est-à-dire qu'il y a l'idée, si vous voulez, que l'avènement de la République s'inscrit dans la logique de l'émancipation, de la liberté, du progrès, qui devient une idée très importante chez Hugo dans cette période-là, mais que ça ne peut pas se faire d'un seul coup, et que ça montre très bien, si vous voulez, que dans cette période où il est un soutien tout à fait loyal de Louis-Philippe, il n'est pas, philosophiquement monarchiste. Il est dans cette idée que il y a un au-delà possible de la monarchie qui est. Mais c'est une idée qui est très profonde à cette époque dans les courants politiques les plus divers. Dans la démocratie en Amérique de Tocqueville, il y a un beau passage où Tocqueville nous dit le principe de la souveraineté populaire d'une certaine manière est universel, mais la plupart du temps il est dormant. Et aux États-Unis, il apparaît pleinement. Alors, Hugo et Tocqueville se représentent de deux courants politiques tout à fait différents, mais cette idée, si vous voulez, c'est qu'il y a une sorte de naturalité de la République démocratique qui se déploie dans l'histoire du progrès. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que le...
Ça serait vraiment la thèse d'Hugo, la naturalité de la République démocratique.
La naturalité de...
Parce que naturalité, c'est un terme assez fort. Ça veut dire qu'on aurait même pas besoin de la construire,
à la s'imposer. C'est le passage de la nature à l'histoire par l'intermédiaire du progrès. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait que Hugo est à la fois... une référence naturelle pour nous et une référence à laquelle on ne peut pas intellectuellement adhérer totalement parce que la croyance au progrès a pris beaucoup de rides quand même. De plomb dans l'aile. Oui, depuis 1830, je crois que c'est moins évident.
Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de Philippe Reynaud sur la naturalité pour Hugo d'une république démocratique, ce qui voudrait dire aussi d'une certaine manière qu'il n'y a pas besoin de la construire alors que Hugo, s'il se présente comme prophète, s'il va écrire après Les Misérables, c'est qu'on voit bien aussi qu'il veut contribuer à façonner cette image d'une certaine république. Il veut infiltrer les esprits. Je vais pas être complotiste, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il va quand même construire cet imaginaire-là et non pas se dire que le temps va faire les choses.
Oui, alors la naturalité n'exclut pas qu'on facilite un peu les choses, mais parce que les êtres humains font partie de cette nature, après tout. Mais je crois
Puis dans la nature, il y a des douleurs, il y a les douleurs d'enfantement, il y a des orages, il y a des tempêtes, il y a beaucoup de choses.
Et il nous faut des médecins, voilà.
Oui,
alors justement, j'allais y venir tout à fait. Alors je crois que l'autre mot absolument central vient d'être prononcé, c'est celui de progrès, en fait. C'est vraiment ça le moteur de la pensée politique de Victor Hugo, pensée un peu chatoyante. N'oublions pas que Victor Hugo n'est pas un philosophe politique, tout ça est dans le clair-obscur souvent.
Mais presque une certaine vision d'une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire vraiment d'un sens de l'histoire. C'est pas n'importe quoi de parler de sens, en fait, d'histoire.
Oui, tout à fait. Mais si l'on prend les Misérables, où les choses se déploient de la façon la plus ambitieuse, vous avez donc un horizon qui est l'horizon du progrès, mais aussi une vision qui inclut un certain pessimisme. Et c'est là que je crois qu'on peut nous approprier le progressisme de Victor Hugo, malgré le XXe siècle, malgré ce qu'est devenu l'idée de progrès vue d'aujourd'hui, parce que Victor Hugo n'est pas forcément l'auteur naïf qu'on imagine parfois, enfin en tout cas n'est pas seulement cet auteur fasciné par un progrès à venir qui va forcément se déployer avec une sorte de confiance totale dans la nature et la façon dont l'histoire déploierait la nature humaine. Dans Les Misérables, il y a un principe aussi pessimiste qui consiste à dire la société est animée par ce qu'il appelle des bas-fonds. Hein, cette fascination pour les bas-fonds, ça traverse toute l'œuvre de Victor Hugo, hein, Notre-Dame de Paris déjà, et donc est un texte de 1831 ou si je ne m'abuse, j'ai plus la date exacte en tête, mais il y a cette idée que la société est travaillée par des forces qui empêchent le progrès aussi, hein, qui tirent la société en arrière en permanence. Alors il y a des forces qui viennent par le haut, des forces autoritaires ou despotiques, et puis il y a des forces qui viennent par le bas. Et ces misères des misérables, c'est cela. Les Thénardier l'incarnent très bien, mais il y a une sorte de principe aussi dans la société négatif, et la fraternité à laquelle rêve Victor Hugo, c'est une espèce de victoire sur ce principe négatif à l'œuvre dans la société. Donc il y a aussi dans le regard de Victor Hugo sur le monde social, sur le monde des hommes, une dimension beaucoup plus noire et beaucoup plus sombre qu'il faut aussi prendre en compte pour comprendre le système.
Je vais vous poser une question à tous les deux, peut-être un petit peu prématurée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces idées-là de Victor Hugo ? Parce qu'on vous avait parlé de naïveté, on a parlé de plomb dans l'aile ou de ride. C'est vrai que parfois, on en fait un auteur un petit peu mièvre, notamment voilà, sur la fraternité, sur le progrès, sur la République. Est-ce que Victor Hugo, il est daté ? Est-ce que on doit le relire ? Vous allez me dire, oui, évidemment, faut le relire. Voilà, c'est une question rhétorique. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a d'actuel aujourd'hui, Victor Hugo, sur ces questions-là ? Si justement tous ces principes-là nous semblent un petit peu dépassés, Alexandre de Vitry.
Je dirais d'abord qu'on peut partir d'une actualité de fait, c'est-à-dire que tout le monde connaît Les Misérables. Tout le monde connaît Les Misérables, même sans l'avoir lu. Alors d'abord, il y a beaucoup de lecteurs des Misérables, malgré tout. Parmi les grands romans du 19e siècle, on lit énormément Les Misérables aujourd'hui. Il y a plus de lecteurs des Misérables que de Madame Bovary, il me semble, hein, par exemple, pour prendre un autre classique de la même séquence. Et d'autre part, il y a une espèce de mythologie des Misérables qui a transpiré bien au-delà du roman lui-même, à travers le cinéma, la comédie musicale, et puis les personnages même des Misérables qui sont universellement connus, qui justement sont des mythes qui ont pris consistance. Et il y avait cette ambition chez Victor Hugo dans Les Misérables de créer une mythologie pour justement ces idéaux politiques qui étaient en danger à ce moment-là, qui étaient particulièrement précaires. C'est le roman de la fraternité à une époque où plus personne ne croit à la fraternité. Les Misérables, ça te paraît en 1862 au cœur du Second Empire.
Fraternité.
Alors justement, je pense qu'en tout cas, nous y sommes manifestement attachés, ou bien il y a quelque chose comme de l'ordre peut-être du désir, c'est-à-dire que Les Misérables, c'est un roman qui place les idéaux de Victor Hugo, non pas seulement dans le passé, mais à l'horizon, c'est-à-dire que si tout le monde est attaché à cela, c'est un peu comme Victor Hugo lorsqu'il écrit et publie Les Misérables, parce qu'il y a l'idée d'un horizon à atteindre. Peut-être que nous sommes plus pessimistes que ne l'était Victor Hugo, peut-être que nous ne croyons pas qu'il soit possible d'atteindre cet horizon, mais malgré tout, nous ne cessons de le fixer. C'est pas du tout un imaginaire de la décadence, par exemple, vous voyez, ou du simple retour en arrière, ou tout simplement patrimonial. C'est pas comme, par exemple, je sais pas, il y a des figures très populaires comme Marie-Antoinette et autres qui viennent de l'histoire, mais qui ne produisent pas du tout, vous voyez, cette espèce de relance.
Ou de projection, effectivement.
De projection vers le futur.
Oui, mais on n'est plus désabusé aujourd'hui.
Je ne sais pas, je n'en suis pas si sûr. Je pense que,
oui, c'est vrai que je
on pouvait être très
ça,
désabusé
mais...
dans le second 19e siècle. Il y avait des choses absolument terribles qui se passaient dans la condition ouvrière.
Philippe Reynaud, sur cette actualité de
Victor Hugo. Si que la...
Surtout que c'est vous qui avez parlé de Ride. Hein.
Non, mais d'une certaine manière, je crois que ce qui fait que Hugo est populaire et surtout consensuel aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait que les mythes hugoliens sont moins mobilisateurs. C'est-à-dire que si vous prenez une chose frappante, par exemple, dans l'espace politique français aujourd'hui, c'est que tout le monde se réclame de Victor Hugo. Depuis Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. À la fin au XXe siècle, s'il y a quelque chose qui caractérise la pensée de droite dure, c'est le mépris de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un imbécile. Il y a un livre assez intéressant et pas trop méchant de Léon Daudet sur Victor Hugo, mais qui, parce que Léon Daudet a été familialement lié à, ben enfin, le constat politique est accablant. C'est-à-dire, Hugo est celui qui a détruit la poésie classique, qui a détruit l'ordre, etc. C'est vraiment l'anti-objet pour la pensée de droite pendant très longtemps. Et je pense que c'est à ça d'ailleurs qu'on pouvait reconnaître un homme de droite. C'est quelqu'un qui pensait que Victor Hugo était un imbécile. Bon, ça n'est absolument impossible aujourd'hui. Et n'oublions pas par ailleurs que du côté de la gauche marxiste a longtemps été très dure avec Victor Hugo, parce que c'était un bourgeois, c'était un homme qui refusait la lutte de classe. Lafargue a fait un pamphlet contre Hugo et a rompu le consensus au moment qui est le gendre de Marx.
Qui a écrit aussi le droit à la paresse,
Hugo est réhabilité dans la culture d'extrême gauche depuis le Front Populaire grâce à Aragon. C'est lié à l'évolution du Parti communiste qui devient républicain, patriote, etc. Mais c'est un acquis sur lequel on n'est pas revenu. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, tout le monde est hugolien. Au moins dans la classe politique officielle. Mais est-ce que Hugo, pour autant, ça fait rêver, ça inspire, je ne sais pas, moi, ce que je dirais...
En tout cas, ça fait rêver Alexandre de Vitry.
Mais nous ne sommes pas des échantillons... Deux, nous sommes pas un échantillon représentatif de la population française, j'en ai peur. Moi, je citerai un des plus grands historiens de ces questions, qui était le regretté Paul Bénichou, qui parle généralement de tout ce qu'il appelle le courant humanitaire au XIXe siècle, dans lequel il y a Hugo, Michelet, Quinet, un certain nombre de gens, qui étaient très méprisés dans les années 70 parce que ils n'étaient pas aussi radicaux que les socialistes, que les marxistes, etc. Et Bénichou a cette jolie formule, il dit c'est des gens qui sont... C'est une pensée qui est d'autant plus méprisée aujourd'hui que l'essentiel en subsiste dans la mentalité commune. Ben, je crois que c'est ça, c'est que l'essentiel en subsiste dans la mentalité commune, et nous sommes naturellement assez hugoliens, si vous voulez, même les gens qui n'aiment pas le mythe du progrès, qui n'aiment pas le côté inclusif de Victor Hugo, certains d'entre eux sont sensibles à son amour des animaux, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui fait jouer les harmoniques de la sensibilité moderne, mais avec une armature philosophique dans laquelle, à mon avis, l'esprit ne se reconnaît plus. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a des belles choses dans la philosophie de Hugo, mais... si vous voulez, il y a une tentative justement de penser l'idée de progrès en la coupant de l'idée d'une nécessité historique implacable. C'est une tentative parmi d'autres de concilier le progrès avec la liberté humaine. Il y a un effort très très sérieux et très central d'ailleurs trouver une solution de la question théologique et religieuse qui dépasse le conflit entre le christianisme institué sous sa forme catholique et le matérialisme militant des lumières radicales, comme on dit aujourd'hui. C'est une position, disons, théocentrique modérée, qui est philosophiquement très intéressante, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, mais là aussi je constate, si vous voulez, que si vous voulez entretenir une religion avec Dieu et l'humanité combinés ensemble, vous n'aurez pas beaucoup de fidèles. Et ça vous donne des cérémonies qui ne passionnent pas grand monde. C'est-à-dire, c'est un peu... c'est un peu ce que fait dans les pays anglo-saxons, ce que font les églises unitariennes. Ça réunit pas les foules et ça fait pas beaucoup de ferveur, tout ça. Mais c'est bien.
C'est bien. Oui. Et dans sa philosophie, on pourrait aussi évoquer le concept de fraternité. J'aimerais qu'on écoute un extrait des Misérables suivi d'une préface avortée des Misérables, donc qui a été publiée beaucoup plus tard et qui aborde justement ce concept sur lequel vous avez travaillé, Alexandre de Vitry, c'est la fraternité.
Monseigneur, le panier d'argenterie, je l'avais rangé hier au soir, mais il a disparu. Savez-vous où il est?
Mais oui, le voici.
Mais il est vide. Et l'argenterie, les couverts, la grande louche, où sont-ils?
Je ne sais pas.
C'est l'homme d'hier au soir, le forçat.
Il n'est plus dans sa chambre. Je lui portais un bol de lait, son lit est vide.
Heureusement que j'avais monté les chandeliers dans ma chambre.
Allez, avance-toi. Allez. Monseigneur, regardez ce que cet homme avait dans son sac. Nous l'avons interpellé pour vérifier son passeport et pour le fouiller. Voilà ce qu'il avait. Et comme vous savez qu'hier, vous l'aviez reçu à dîner, ma foi, nous l'avons arrêté.
Pourquoi n'avez-vous pas dit à ces messieurs que je vous les avais donnés? Vous avez même oublié vos chandeliers. Je vous les avais donnés avec les couverts. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés?
Vous les lui aviez donnés?
Mais bien sûr.
Alors, comme ça, nous pouvons le laisser aller?
Oui, et rendez-lui son bien.
Pour vous obéir, monseigneur.
Comment ça, monseigneur? C'est non pas le curé?
Mais non, c'est monseigneur l'évêque. Tiens.
Vous prendrez bien un verre de vin, brigadier.
Ah, oh, c'est pas de refus, monseigneur.
Madame Magloire, conduisez ces messieurs.
Venez, messieurs.
Je vous rejoins.
Merci.
Attendez. Vous oubliez encore vos chandeliers. Allez, prenez-les. Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre homme. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète.
La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité. La solidarité est au-delà de la fraternité. La fraternité n'est qu'une idée humaine. La solidarité est une idée universelle. Universelle, c'est-à-dire divine. Et c'est là, c'est à ce point culminant que le glorieux instinct démocratique est allé. Il a dépassé la fraternité pour arriver à l'adhérence. Adhérence avec quoi? Avec Pan. Avec tout. Car le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre l'exclusion. Si la solidarité est vraie, elle est nécessairement générale. Toute vérité est une lueur de l'absolu. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse groupe stellaire est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme de cette formule, le polynôme se désorganise, l'équation chancelle. La création n'a plus de sens dans le cosmos et la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Donc, solidarité de tout avec tout et de chacun avec chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon solaire.
France Culture. Avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Le fameux extrait des Misérables, l'épisode des chandeliers, ce moment où le Monseigneur Bienvenu baptise d'une certaine manière Jean Valjean et le déclare frère, lui achète son âme, suivi de cette préface donc avortée des Misérables qu'il a rédigée en 1860 mais qui a été publiée en 1908 et là qui fait cette distinction entre la fraternité et la solidarité. La fraternité semble presque un petit peu pauvre à côté de la solidarité, Alexandre de Vitry, alors que dans Les Misérables, on peut dire quand même que c'est là où Hugo réhabilite la fraternité, ce terme qui était désuet à son époque et qu'il est encore aujourd'hui. On oublie, on parle beaucoup de liberté et d'égalité, mais moins de fraternité.
Oui, on en parle avec toujours une petite gêne, on est un peu embarrassé quand on parle de fraternité. Elle n'a pas l'ampleur de la solidarité, en effet, dans le vocabulaire de Victor Hugo, mais elle est plus humaine. Hein. Et c'est ce qui explique que Les Misérables, ce soit un livre non pas sur la solidarité, mais sur la fraternité, parce que c'est un livre sur la société humaine, hein, alors que la solidarité, on l'a entendu dans le texte qui a été lu, c'est une notion presque cosmique, hein, cosmologique, qui consiste à décrire un système de ce qui existe, presque une ontologie générale, universelle. Et la fraternité, c'est la version imparfaite de cette solidarité telle qu'elle se manifeste chez l'homme. D'où ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, le fait que Les Misérables soit aussi un livre empreint d'un certain pessimisme sur la société humaine. Parce que la fraternité, c'est cette victoire imparfaite, si l'on veut, de la solidarité sur le mal tel qu'il se déploie dans une société humaine. La fraternité, elle est toujours dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur. Et c'est ce qui la rend intéressante. En fait, c'est ce qui la rend romanesque. Et donc, c'est ce que j'ajouterais maintenant, peut-être, pour faire aussi le lien avec ce que disait Philippe Reynaud tout à l'heure, c'est que là, on l'a bien entendu en entendant ces deux textes en vis-à-vis, c'est que le Victor Hugo essayiste, disons, ou philosophe, et le Victor Hugo romancier, ça n'est pas tout à fait le même son de cloche pour nous aujourd'hui. Bien sûr que quand un texte philosophique de Victor Hugo ne vieillit pas aussi bien qu'un texte romanesque de Victor Hugo. La philosophie de Victor Hugo est très marquée par son temps, cette cosmologie romantique de l'harmonie universelle ou de la solidarité universelle, elle est vraiment très typique d'un certain état d'esprit du milieu du 19e siècle, auquel Paul Bénichoux, justement, s'est beaucoup intéressé dans ses livres. Et ce qu'on lit de Victor Hugo, ça n'est pas d'abord la préface philosophique des Misérables. On la lit parce qu'on s'intéresse à Hugo de manière un peu savante, ou parce qu'on veut aller plus loin après la lecture des Misérables. Mais ce qu'on lit, ce sont des romans, des pièces de théâtre, des poèmes de Victor Hugo, c'est-à-dire des textes où les idées traversent ce qui se joue, mais ne sont pas le seul support, ne sont pas ce dont le texte est censé être le support. Donc en fait, pour revenir un peu à cette question de la désuétude ou de l'actualité de Victor Hugo, c'est presque un peu piégé comme question, parce que ce que nous lisons, c'est quelque chose qui passe au-delà de la péremption des idées ou d'une légère, si vous m'autorisez cette familiarité, il y a quelque chose d'un peu ringard dans la philosophie de Victor Hugo, parce que extrêmement marqué de son temps, mais malgré tout, en fait, ce qui se joue dans le roman permet d'aller au-delà. Et ce qui se joue dans la scène du baptême, c'est beaucoup plus qu'une distinction un petit peu étrange pour nous entre fraternité humaine et solidarité cosmique. Ce qui se joue, c'est un événement, c'est du narratif, c'est du récit. Et ce qu'on lit en lisant la rencontre de Valjean avec l'évêque de Digne, donc bienvenue Myriel, qui le sauve en le presque baptisant, donc en rachetant son âme, comme il le dit, en la tirant du mal pour la faire aller vers le bien, cette espèce de scène inaugurale. Alors en fait, il y a plusieurs seuils dans ce premier livre des Misérables, une espèce de seuil que passe Valjean dans une sorte de sortie progressive des ténèbres pour pouvoir entrer dans la lumière, et ensuite c'est des centaines de pages de romans qui vont montrer comment cette découverte de la fraternité va pouvoir se déployer à travers ce personnage. Et ça, c'est très différent d'un système philosophique de la fraternité et de la solidarité. Et c'est là qu'en fait nous pouvons le lire, parce qu'en fait le récit, c'est beaucoup plus plastique, beaucoup plus souple pour un lecteur, même sur le plan cognitif en quelque sorte, ça s'adapte beaucoup plus immédiatement à l'expérience du lecteur, à sa propre vision du monde, à son vocabulaire, etc.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la solidarité telle qu'on l'entend dans Les Misérables, enfin la fraternité telle qu'elle est définie par Hugo, correspond à notre solidarité actuel, presque. C'est-à-dire que le mot de solidarité, on l'emploie régulièrement, alors que le mot de fraternité, non. Qu'est-ce qu'il a de plus?
Oui, alors il y a quelque chose qui fait écran entre Victor Hugo et nous, c'est que le mot de solidarité a pris ensuite une importance très décisive.
Une ampleur politique incroyable.
Politique, mais aussi savante, épistémologique presque. C'est-à-dire que dans les premières décennies de la Troisième République, à la fin du 19e siècle, c'est le développement des sciences sociales, c'est Durkheim en particulier, que tout le monde connaît, et bien c'est un penseur de la solidarité, et tout le système social français tel qu'il se déploie là puis à plusieurs reprises, notamment après la Seconde Guerre mondiale, se pense sur le mode de la solidarité, parce que la solidarité, c'est plus solide, c'est plus positif, c'est moins métaphorique, c'est moins issu d'un vocabulaire religieux, ce qu'on sent pas du tout dans le texte de Victor Hugo, parce qu'il n'y a pas eu cette espèce d'affirmation beaucoup plus positive par les sciences sociales et ensuite par le langage juridique de la solidarité qui s'est déroulée plutôt après. Donc ici, le mot solidarité, il a quelque chose d'un peu décalé par rapport à ce qu'il est devenu pour nous.
Alors qu'il y a quand même une spécificité de la fraternité, c'est-à-dire que même aujourd'hui, comme vous dites, on est un petit peu gêné quand on l'emploie, mais là en fait, ça a beau ressembler à un baptême, et il y a une dimension religieuse qui est incontestable. C'est quoi la définition en fait politique de la fraternité? Qui est frère pour Hugo? Est-ce que les frères, ça constitue un peuple pour lui? Est-ce que le peuple démocratique tel qu'il l'entend est fait de fraternité?
Ça peut être beaucoup de choses, parce que même si on s'en tient à Victor Hugo, la fraternité, ça peut être une expérience entre deux individus, un peu comme Jean Valjean et Monseigneur Bienvenu, et ça peut être aussi au contraire une pensée de l'accord des nations. L'idée des États-Unis d'Europe, ça finit par donc un discours célèbre de Victor Hugo réseau qui propose des États-Unis d'Europe, ça finit par l'idée que tous les pays doivent être frères. Donc en fait, c'est des liens qui peuvent opérer à toutes sortes d'échelles, qui viennent surmonter un antagonisme. Donc c'est très souple. Hein.
C'est l'hymne à la joie.
C'est l'hymne à la joie, tout à fait, hein, de Schiller puis de Beethoven, hein, qui se continue ici. Et par ailleurs, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de votre question.
La fraternité, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, quoi ? Ça permet de définir en termes de peuple?
Alors
la fraternité,
justement, on peut revenir encore au moment
Il y a des liens resserrés et puis il y a des liens plus universels, plus larges.
En tout cas, pour vous répondre de manière presque anecdotique, mais je pense que ça peut répondre à votre question. Dans les débuts de la Troisième République, tout à l'heure, nous parlions du statut de Victor Hugo à ce moment-là, du rôle qu'il avait joué dans l'imaginaire politique. Et je crois que la fraternité joue un peu le même rôle, parce que lorsqu'on doit à nouveau choisir une devise pour la République, eh bien, la question se pose de remplacer la fraternité par la solidarité. Parce que la première fois qu'on a proclamé la devise liberté, égalité, fraternité, c'est 1848. Or, la fraternité a montré qu'elle conduisait cinq mois plus tard, au fratricide, aux fusillades de juin 1848. Donc on a du mal avec la fraternité à ce moment-là, et malgré tout, on l'a retenue, malgré le fait que la solidarité était beaucoup plus convaincante sur un plan plus rationnel, et notamment juridique, on l'a retenue parce que la fraternité, ça introduit une dose de principe. Cette dimension métaphorique et religieuse, même dans un moment assez anticlérical de la République, qui est le tournant de 1900, la fondation de la Troisième République, eh bien, on a besoin en fait d'un principe qui se présente comme principe, avec quelque chose d'un peu indépassable qu'on n'a pas dans la solidarité. Et dans la fraternité, en fait, les défauts de la fraternité...
Donc il y a eu des débats là-dessus, vraiment.
Il y a eu des débats là-dessus, tout à fait, ouais. Oui, on peut les lire. Les défauts de la fraternité expliquent paradoxalement sa survie, je crois.
Philippe Reynaud.
Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je voudrais dire deux choses à propos des misérables. La première, c'est qu'il y a un bel épisode pendant l'émeute dans lequel un des républicains vise un garde national et le tue, et son camarade lui dit « Mais cet homme que tu vas tuer ou que tu viens de tuer, ça aurait pu être ton frère. » Et l'autre lui répond « Ça l'était. » Vous savez, donc il y a quand même une dimension tragique dans la notion de fraternité qui est tout à fait dans il y a l'ambiance de 48 qui est déjà là. C'est le fait que les frères en République peuvent se déchirer. Il y a cette dimension meurtrière. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Les Misérables, si Les Misérables sont un grand roman, c'est parce que ça n'est pas un pur hymne au progrès, c'est un vrai roman dans lequel il y a des tensions, il y a une dimension mélancolique. Le roman, comme disait l'autre, c'est le conflit entre la poésie du cœur et la prose du monde. Il faut que la prose du monde soit présente. Et ce que je voudrais dire, par exemple, c'est qu'il y a une présence du mal, Alexandre en a parlé tout à l'heure, qui est importante, qu'on voit très bien dans le personnage de Thénardier. Thénardier est vraiment un scélérat. C'est intéressant, Hugo dit que c'est un mauvais pauvre. Ce qui ferait hurler probablement un certain nombre
de
personnes de gauche aujourd'hui. Et d'autre part, comme l'avait remarqué Mona Ozouf, si vous prenez la fin des Misérables, c'est quand même, c'est pas une femme malheureuse, mais c'est quand même bien modeste, si vous voulez. Jean Valjean a été exclu par Marius, qui est pas d'une générosité républicaine immense dans ses réactions à l'égard de l'ancien bagnard. Et finalement, c'est une fin mélancolique, assez modérée, et où ce qui se profile, c'est le bonheur assez bourgeois de Marius et de Cosette. Mais tous les rêves de l'épopée de l'enterrement du général Lamarque ont un peu disparu. Et ça ne se termine pas, si vous voulez, sur une perspective grandiose. Et ce qui m'avait frappé quand j'avais vu la comédie musicale, j'avais vu ça à New York, c'est le fait qu'elle, au contraire, si je m'en souviens bien, elle se termine par une célébration révolutionnaire.
Un happy end.
C'est un happy end révolutionnaire et émeutier. Ben, c'est pas du tout présent chez Hugo. Ben, ça vous donne bien une idée de ce qui nous différencie de ce grand homme.
Il nous reste encore quand même quelques minutes et j'aimerais qu'on écoute cet extrait que vous nous avez suggéré, Philippe Reynaud, de 93. C'est le tout dernier livre de Victor Hugo.
«
Un jour,
dit Simourdin,
la révolution sera la justification de la terreur.
Craignez,
lui répond Gauvin,
que la terreur ne soit la calomnie de la révolution. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des dogmes de paix et d'harmonie. Pourquoi leur donner un aspect effrayant ? Que voulons-nous ? Conquérir les peuples à la République universelle ? Eh bien, ne leur faisons pas peur. À quoi bon l'intimidation ? Pas plus que les oiseaux, les peuples ne sont attirés par l'épouvantail. Il ne faut pas faire le mal pour faire le bien. On ne renverse pas le trône pour laisser l'échafaud debout. Mort au roi et vie aux nations. Abattons les couronnes, épargnons les têtes. La révolution, c'est la concorde et non l'effroi. Les idées douces sont mal servies par les hommes incléments. Amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue humaine. Je ne veux verser de sang qu'en risquant le mien. Du reste, je ne sais que combattre et je ne suis qu'un soldat. Mais si l'on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre. Soyons pendant la bataille les ennemis de nos ennemis et après la victoire, leurs frères.
Pourquoi nous avoir indiqué ce texte, Philippe Reynaud ? Un extrait de 93, le dernier livre de Victor Hugo.
D'abord parce que c'est un texte qui donne un rythme temporel au développement de la fraternité. C'est après la bataille, nous serons frères. Ça suppose qu'il y a la bataille. Mais en même temps, il y a une discussion très riche et très profonde sur la terreur, où là, j'ai choisi, ça correspond peut-être à ma sensibilité personnelle, le texte dans lequel Gauvin, qui est plutôt, disons pour simplifier, Girondin, critique la politique de la terreur, mais son adversaire Simourdin ne manque pas d'éloquence. Et n'oublions pas qu'il y a un chapitre dans les 93 où les deux positions sont présentées, et le chapitre s'appelle « Les deux faces du vrai ». Alors c'est... il y a une certaine ambiguïté politique de Victor Hugo qui est tout à fait pour la pacification après la Révolution, mais qui, d'une certaine manière, est prêt à assumer l'ensemble du processus révolutionnaire. C'est un aspect de la Troisième République aussi. La Troisième République hérite de la Révolution, mais dit clairement qu'il n'y en aura pas d'autre après. Mais il y en a eu une avant qui comprend, dont on prend plus ou moins l'ensemble. C'est Victor Hugo est quelque part entre Jules Ferry et Clémenceau, à mon avis, sur ces questions.
Un dernier mot, Alexandre de Vitry.
Oui, on voit bien que le rapport contradictoire de Victor Hugo à la question de la Révolution, et qu'on voit aussi dans la scène que vous citiez tout à l'heure, où Enjolras tire sur celui qui est son frère, précisément, qu'il reconnaît comme son frère.
Dans Les Misérables. Oui.
Il y a des contradictions dans la fraternité révolutionnaire et politique, que d'ailleurs tous les hommes du 19e siècle connaissent très bien, ont tous à l'esprit. Et donc la fraternité à laquelle ils rêvent, c'est une fraternité qui doit surenchérir sur ces contradictions. Il faut un horizon qui soit en fait religieux. Et d'ailleurs, Victor Hugo appelle Les Misérables un livre religieux, pas un livre politique. C'est un sens du mot religieux qu'on a du mal à saisir aujourd'hui. Mais voilà, l'horizon de la politique...
Spirituel, on pourrait dire.
Peut-être que spirituel nous est plus parlant pour nous aujourd'hui, mais l'horizon de la politique de Hugo est religieux, hein, dans un sens qui permet de mieux le comprendre.
Merci beaucoup à vous deux, Alexandre de Vitry, Philippe Reynaud, Alexandre de Vitry, de vous, on peut lire Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité parue aux éditions Gallimard, et de vous, Philippe Reynaud, on peut lire Victor Hugo, La révolution romantique de la liberté, également parue aux éditions Gallimard.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremblant en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est à
Et maintenant, comme tous les jours du lundi au jeudi, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment accéder à l'intimité ?
nous savons en quelque sorte instinctivement, mais cet instinct est lui-même en quelque sorte fragile et précieux, nous savons instinctivement qu'il y a deux relations possibles entre les êtres et notamment entre les êtres humains. En tout cas pour nous, d'abord entre les humains eux-mêmes. Il y a un rapport qu'on sait extérieur, un rapport au corps de l'autre qui le traite en quelque sorte comme un objet, même dans les relations que l'on dit intimes, parce que ce sont d'ailleurs des relations de pénétration, les relations amoureuses ou sexuelles. Mais l'intérieur et l'extérieur entre les êtres humains ne se réduisent pas justement à ces corps forteresses, à ces corps troués, à ces corps qui permettent les relations sur lesquelles il y a toutes sortes de fantasmes possibles, bien entendu, ces fantasmes de l'intérieur et de l'extérieur qui nous travaillent en profondeur, si l'on ose dire. Nous savons qu'à côté de ces rapports extérieurs qui peuvent devenir violents, violateurs, qui peuvent devenir des violations, il y a aussi des rapports que nous appelons des rapports intimes en un tout autre sens. Il y a un autre sens de l'intimité. Mais que signifie l'intimité? Comment accéder à l'intériorité d'autrui, pour ainsi dire, à son intériorité profonde, à son intériorité psychologique? Il y a une erreur, semble-t-il, à éviter, une erreur qui a dominé, peut-être tyrannisé nos vies intimes depuis que cette question de l'intériorité et de l'intimité est entrée dans l'histoire moderne des consciences. Cette erreur, ce serait de dire, voilà, au fond, il y a d'un côté un rapport extérieur, nous ne cherchons pas à nous connaître, nous nous utilisons, nous nous manipulons, et c'est la source de la violence, et d'un autre côté, l'intimité consisterait donc à se dévoiler tout entier. Oui, je saurai tout de toi, tu me raconteras toute ta vie, je te raconterai la mienne. Il y a cette transparence absolue dont certains ont cru que Jean-Jacques Rousseau avait été l'orateur ou l'inventeur. Il y a cette mise à plat totale de soi-même devant l'autre, et ce serait ça, finalement, l'intimité. Ce serait de rendre extérieur tout mon intérieur. Tu saurais tout de moi, tu serais comme moi-même en moi-même. Oui, mais voilà, moi-même pour moi-même, je suis aussi un peu mystérieux. L'intériorité psychologique se construit de manière difficile, un peu dialectique. Je me sépare du monde plus ou moins bien, de façon plus ou moins pathologique, compliquée, complexe. Et au fond, peut-être l'intimité ne consiste-t-elle pas à se rendre extérieur, à rendre mon intériorité supposée totalement extérieure aux autres, mais au contraire, à respecter et à connaître, à deviner le rapport de l'autre à lui-même, le rapport de chacun à sa propre intériorité. Oui, nous vivons dans l'intimité quand nous sentons à des petits signes comment l'autre a envie de parler à ce moment-là ou pas, comment, au fond, il a lui-même un rapport intime avec lui-même. Et l'intimité est d'abord un rapport à soi, mais qui doit être préservé, entretenu, soigné par les autres. Il y a donc comme une réflexivité de l'intimité. Être intime avec quelqu'un, c'est connaître, c'est respecter son propre rapport à lui-même. Ce n'est pas lui ordonner, lui intimer, de mettre son intimité au dehors, de l'extérioriser avec violence. Pas du tout. C'est au contraire de respecter, de connaître et de deviner ce partage, de respecter mutuellement le rapport de chacun à lui-même. Cette intimité qui définit aussi la familiarité, qui définit peut-être la citoyenneté heureuse, celle qui permet des rapports avec les autres et avec le monde. Une intimité qui donc peut s'ouvrir à tous les degrés de l'amour, de l'amitié et de la sociabilité.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Felpin, Chaïma Giboire, Nassim El Kabli et Armance Bourquin à la réalisation, Nicolas Berger à la prise de son, d'Ali Yaha. Pour retrouver toutes les émissions avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur la nouvelle application, qui n'est plus tout à fait nouvelle d'ailleurs, Radio France.